d'esprit, Pierre-Yves Moret.
Il y a 40 ans, Maurice Zindel, un prêtre catholique d'origine neuchâteloise, terminait sa vie dans une clinique lausannoise. Un prêtre qui a laissé à sa mort une trentaine d'ouvrages qui se vendent toujours et de plus en plus ces dernières années, non seulement en Suisse, mais aussi en France, en Belgique ou au Canada. Alors pourquoi autant d'engouement aujourd'hui pour ce théologien du siècle passé, fréquemment contesté de son temps ? À Vue d'Esprit rencontre les héritiers de Maurice Zindel, une série d'émissions proposée par Grégory Roth, réalisée par Jean-Claude Gailly. Bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'émission. C'est une semaine d'émission que vous nous proposez, Grégory Roth. Bonjour.
Bonjour Pierre-Yves.
Alors, pour préparer cette semaine d'émission, vous vous êtes plongé dans la pensée de Maurice Zindel et puis vous avez surtout rencontré des personnes qu'on peut appeler des héritiers de Maurice Zindel.
Voilà, absolument. Je me suis intéressé particulièrement à savoir comment ces héritiers se sont nourris de la pensée de Maurice Zindel et qu'est-ce qui les a travaillés pour qu'aujourd'hui ils puissent en faire quelque chose de concret. Non seulement dans leur cheminement personnel, de foi, spirituel, mais aussi dans leur profession.
Et vous parlez de profession, est-ce qu'il y a des professions spécifiques ou particulières dans lesquelles on est touché par la pensée de Maurice Zindel ?
Alors le rayonnement est assez large, mais on retrouve plus particulièrement des métiers qui touchent à l'économie, à la psychothérapie, à l'accompagnement en milieu hospitalier et aussi au journalisme.
Ça d'ailleurs, c'est des métiers dans lesquels sont insérés les interlocuteurs de cette semaine.
Voilà, tout au long de la semaine, nous allons rencontrer par exemple Christopher Wassermann, un chef d'entreprise, aussi François Rouillet, aumônier aux Chuves, Véronique Lesage, psychologue clinicienne et hypnothérapeute. Et pour finir la semaine, nous rencontrerons aussi Jean-Claude Guibaud, journaliste, éditeur et écrivain.
On le disait, Maurice Zindel est mort en 1975. Il était né en quelle année ?
En 1897.
Donc ça fait 40 ans qu'il est décédé, on le rappelle. On va entendre sa voix tout à l'heure dans quelques extraits que vous avez retrouvés.
Voilà, j'ai retrouvé des extraits dans des archives qui avaient été enregistrées dans les dernières années de sa vie, des conférences qu'il avait données ici en Suisse, notamment. Et j'ai retrouvé ces archives dans le Centre catholique des médias et qui ont été reliées dans les différentes archives de la RTS.
Oui. Alors aujourd'hui, première émission ensemble, Grégory Roth. On va commencer par évoquer ou rappeler un peu plus précisément la personnalité et la pensée de Maurice Zindel.
Oui, et ça se fera avec France-Marie Chauvelot. France-Marie Chauvelot, qui est donc journaliste de formation, mais qui a écrit une immense biographie, co-auteur avec le jésuite Bernard de Boissière, qui était un ami proche de Maurice Zindel. Sa passion est justement de transmettre la pensée de Maurice Zindel dans toute la France. Elle organise des conférences, elle en donne pour diffuser cette pensée, et notamment en lien avec des groupes d'amis de Maurice Zindel. Elle a donc un incroyable réseau avec tous les Zindeliens de France et même d'ailleurs.
Zindelien, héritier de Maurice Zindel, c'est un terme officiel ? On se réclame Zindelien comme on se dirait disciple d'une pensée ou de quelqu'un ?
Oui, je pense. D'une certaine manière, les Zindeliens se définissent comme des personnes qui ont été marquées soit par le personnage, par la pensée, et qui d'une certaine manière, je pense, certains disciples, d'autres simplement amateurs de Maurice Zindel. Oui.
Alors on va vous retrouver en compagnie de Marie-France Chauvelot maintenant.
Voilà, Marie-France Chauvelot qui commence par nous dresser le portrait de Maurice Zindel.
Maurice Zindel est un prêtre catholique suisse. Et dans cette définition réside une grande partie de ses épreuves, puisque c'est un homme qui a été en avance sur son temps au plan spirituel, dans la mesure où il n'a pas été forcément bien compris de son temps, pas forcément bien compris dans son pays. Son évêque a préféré qu'il vienne en France, peut-être où ses idées seraient mieux reçues, parce que c'est une spiritualité qui s'est beaucoup reposée sur l'expérience. Une expérience spirituelle dont il sait parler, il a les mots pour le dire et il a les mots pour la faire vivre. C'est en cela qu'il est absolument émouvant, bouleversant, et c'est pour cela qu'il a su convertir, sans le vouloir même, des personnes soit athées, soit en recherche, même dans l'Église catholique. Il leur a parlé et, comme disait très joliment Charles Dubos, il les a tournés vers le soleil.
Et comment s'exprimait-il ? Comment avait-il l'habitude de transmettre son savoir ou ses témoignages ?
Transmettre son savoir, eh bien d'abord parce qu'il a des charges paroissiales. Il prononce énormément d'homélies. Et comme c'est un prêtre très brillant au départ et très thomiste au départ, on lui confie beaucoup de charges d'homélies. Il est très spontané. Il ne les prépare quasiment pas. Et quand il arrive avec un papier, le papier de notes est blanc. Il a des envolées très puissantes, parce que d'abord il a une formation théologique remarquable, c'était un homme très brillant au séminaire, avec une mémoire extrêmement organisée. C'est un homme qui a été capable d'intégrer la toute la somme théologique de saint Thomas, et en même temps de prendre dessus un recul qui lui fait dire très vite que le dogme ne doit pas rester lettre morte, et pour que le dogme ne reste pas lettre morte, il faut se reposer sur l'expérience. Et pour lui, l'expérience est mystique. Pour lui, saint Thomas est un mystique, mais le thomisme a cherché à enfermer une parole qui est souvent devenue un peu inefficace parce que découpée de l'expérience.
On dit souvent que ces méditations, elles partent de l'homme, effectivement. C'est ça qui faisait quelque part son côté unique, son renouveau dans sa pensée.
Il est formidablement intéressant parce qu'effectivement tout part de l'homme, parce que Dieu, lui, est toujours déjà là. Mais c'est la prise de conscience de l'homme qui va mettre Dieu au monde, parce que Dieu ne peut s'exprimer que par nous, par nos mains, nos regards, notre intériorité qui s'exprime elle-même par nos regards et nos mains, en emplissant cette intériorité. Et chaque fois que l'on contemple, chaque fois que l'on nourrit notre intériorité, elle se reflète par nous. Et notamment, évidemment, plus l'élan est fort et plus l'élan se tourne vers la générosité et l'altruisme, mais en prenant toujours un enracinement dans l'intériorité.
Dieu est au-dedans de nous. Augustin nous l'a appris de la manière la plus profonde et la plus magnifique. Dieu est au-dedans de nous. Il est toujours déjà là. C'est nous qui ne sommes pas là.
Et qu'est-ce qui était marquant? Justement, vous avez dit tout à l'heure que plein de personnes se sont converties, et ce n'était pas que dans un giron catholique, mais est-ce que c'était dans cette manière de s'exprimer, on l'a dit, qui part de l'homme, mais qu'est-ce qui touchait véritablement les personnes dans sa manière d'aborder les choses?
D'abord, il a un immense respect de l'homme. Il a un immense respect de l'homme qui est en fonction de sa spiritualité, en lien avec sa spiritualité. En tout, en tous, il voit Dieu. Il voit la plus grande fonction de l'homme qui est l'homme possible. C'est-à-dire qu'on s'adresse tous à l'homme réel, avec ses limites, mais à travers l'homme réel existe l'homme possible. C'est une approche que l'on pourrait comparer à celle de Françoise Dolto. Zindel était intéressée par la psychanalyse de son temps. Et Françoise Dolto, quand elle s'adresse à l'enfant, elle s'adresse en lui à l'homme possible qu'il peut devenir. Et l'enfant l'entend très bien. L'enfant s'accroche à cet axe qu'elle lui tend. Zindel a ce même abord, c'est-à-dire que à l'homme réel, il va présenter l'homme possible. Il s'adresse toujours avec un immense respect parce que chacun est une capacité de Dieu. Pour le comprendre, il a fallu que lui-même perçoive combien il pouvait être une capacité de Dieu. C'est pas déconnecté, ça passe par soi, c'est en lien avec notre intériorité et ça s'adresse à l'intériorité de l'autre, mais sans dogmatisme. Il est question de la susciter, c'est-à-dire qu'en fait, Zindel est toujours à genoux devant l'homme possible. Et ce faisant, il le suscite, sans aucun prosélytisme. Il touche au cœur. Il touche au cœur parce que lui-même est un homme de cœur. D'ailleurs, ses détracteurs le traiteront de cœureux, en disant que ce cœur l'emmène dans une forme de subjectivité. C'est son lien à lui-même, c'est un tendre. C'est un lien à l'autre, avec un petit A, mais c'est un lien à l'autre avec un grand A. Il aime le Christ, il l'aime tendrement. Et d'ailleurs, il a beaucoup d'insomnie, Zindel, parce que lui-même se met dans cette idée de rédemption, et la rédemption, elle est universelle. Et tant que la rédemption n'est pas universelle, on ne peut pas dormir.
Mais il ne parlait pas que de Dieu. Quels sont les domaines principaux qu'il a abordés, au-delà de parler de théologie?
Ce qu'il va expliquer, en fait, c'est que toute recherche poussée jusqu'au bout mène à Dieu. Mais Dieu, c'est l'infini, c'est l'illimité. Et l'illimité, on le trouve chaque fois qu'on se trouve, par exemple, devant l'art, devant la musique, devant la beauté, l'émerveillement et l'expérience spirituelle par nature. Parce que quand on s'émerveille, quand on contemple, on ne se regarde pas soi-même en train de contempler. On est en lien avec ce qu'il y a en soi de plus grand que soi, qui vous fait oublier vous-même. On s'oublie soi-même. Et l'oubli de soi, chez Zindel, c'est intéressant parce que ça n'est jamais un déni de soi. Tout passe par soi. Tout passe par soi, mais avec ce filtre de l'illimité qui nous met au contact en nous de notre intériorité, en nous de cet écho divin. Un écho qui s'anime chaque fois que nous contemplons, chaque fois que nous nous émerveillons, chaque fois que nous sommes généreux. Dans cet oubli de nos frontières qui se dissolvent. Elles se dissolvent non pas par une volonté, par un renoncement, mais par un émerveillement et par un élan. Et l'élan vers l'autre, qu'il est une majuscule ou une minuscule, l'élan vers l'autre, c'est vraiment une thématique chère à Zindel parce que c'est ce qu'il vit, parce que c'est la relation à l'autre. Et la relation, quand on est dans la relation, on s'oublie soi-même. On crée un pont à l'autre qui est de même nature. Et là, on retombe quand même dans les fondements théologiques, c'est que l'identité se fait à un Dieu trinitaire. Et c'est cette approche qui est très intéressante. Le Dieu tout solitaire est un Dieu forcément extérieur à nous-mêmes. Il est loin, on lui parle, on s'adresse à lui, on attend de lui, on attend qu'il intervienne, on le prie pour qu'il intervienne. S'il n'intervient pas, la foi risque d'en prendre un violent coup. Et c'est ce qui va se passer avec les guerres. Parce que Zindel, dès que la première est terminée, c'est déjà qu'il va y en avoir une seconde. Il interpelle l'Église à ce moment-là, en expliquant que ce Dieu extérieur, loin de tout, risque de disparaître. Et pour beaucoup d'ailleurs, Dieu sera mort dans les camps. Si l'on a, on a le Dieu Père et le Dieu Fils, parce que Dieu est Père, Dieu est Fils. Pour Zindel, Dieu n'a pas de Fils, Dieu est Père et Fils. On risque de retomber dans cette tentation narcissique du double regard où l'un fait exister l'autre. C'est l'intervention de l'esprit qui va désapproprier la relation. Et ça, c'est fantastique. C'est tout le sens de la Trinité. L'esprit amène cette désappropriation par ce mouvement incessant en trois de regard, où le regard ne s'appartient plus, où le regard n'est pas là pour faire exister l'autre, mais le regard est un élan, le regard est une vie.
La connaissance de Dieu n'est pas une connaissance théorique, abstraite, impersonnelle, que l'on pourrait se procurer comme on apprend un théorème de géométrie. On ne connaît Dieu que dans la mesure où l'on vit de Dieu. Et vivre de Dieu, c'est donc accueillir Dieu en soi, c'est le laisser vivre en soi, c'est donc d'une certaine façon vivre l'incarnation de Dieu.
On s'identifie à un Dieu relation, à un Dieu trinitaire, et nous comprenons alors que le sens de notre vie est appelé à cette relation trinitaire, c'est-à-dire à une désappropriation. Et la désappropriation, elle commence par soi, parce que nous avons une forme de regard propriétaire sur nous-mêmes, un regard où nous nous attendons. Nous nous attendons au tournant, parce que souvent, nous avons eu ce regard qui a pesé sur nous, un regard de parent qui attend, qui projette, qui espère. Mais l'espoir, c'est aussi une forme de projection, c'est une forme d'attente. Il faut apprendre à se désapproprier dans cette relation à soi et à désapproprier la relation à l'autre.
Qu'est-ce qu'il y avait peut-être chez lui de nouveau, qui est remarquable et qui n'aurait pas été autant développé avant lui ?
Au point de vue des développements, on peut penser que tout a été dit. Il ne s'inscrit pas dans une nouvelle théologie. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il le vit. Lui, il le vit au quotidien. Quand on dit que Dieu rend libre, on ne comprend pas toujours que Dieu puisse rendre libre. Parce que notre vision projette un Dieu dominateur, un Dieu extérieur. Comment peut-il nous rendre libres ? Par quelle attente ? En revanche, quand on est dans la désappropriation, Dieu est intérieur. Alors, il n'apporte pas grand-chose. On peut le retrouver chez les anglo-catholiques, ce Dieu intérieur. D'ailleurs, lui-même l'a trouvé là-bas. Tout existe, mais c'est la façon de le vivre. Maurice Zindel a voulu être moine. Quand il était à Einsiedeln pour apprendre l'allemand avant d'entrer au séminaire, il voulait devenir moine dans cette abbaye, mais la guerre a éclaté. Il a dû quitter la Suisse germanophone pour retrouver la Suisse francophone. Mais il a été oblat bénédictin. Et en fait, cet homme est un moine qui a été privé de son couvent. Et toute sa vie, il a entretenu une relation à l'autre qui est une relation de moine. C'est-à-dire, c'est une attention à. Il est totalement, constamment attentif à, sans intention sur. Dans cette façon de présenter, sans aucun prosélytisme, il y a des phrases qui paraissent comme des vérités parce qu'elles tiennent compte de notre contexte, parce qu'elles tiennent compte de nos difficultés, parce qu'elles placent l'homme au centre de la réflexion, parce que ça passe par un éveil de conscience. Et ça, l'ouverture de la conscience, c'est quelque chose qui parle beaucoup à notre génération, qui nous interpelle parce qu'elle nous rend acteurs de nos vies, acteurs de notre spiritualité. Zindel nous présente l'homme comme le partenaire de Dieu. C'est-à-dire que Zindel a été très en avance sur son temps. Il a eu des concepts qu'on ne maniait pas encore. le Dieu mère, le Dieu de tendresse, le Dieu humble. C'est lui qui a été à l'initiative du Dieu humble, qui a été très transmis en France par le Père Varillon, mais c'était du Zindel. Et ce Dieu humble touche beaucoup, parce que ce n'est plus ce Dieu extérieur, c'est un Dieu intérieur, dont la vie, quelque part terrestre, si j'ose dire, dépend de notre manifestation, dépend de notre implication. Nous sommes responsables de Dieu. Il nous a fait comprendre que nous sommes le berceau de Dieu. C'est-à-dire que nous avons tous en nous un germe que l'on peut faire croître ou non. Et de cette croissance dépend finalement le monde. Et on le voit bien, ça nous parle, parce qu'aujourd'hui, si Dieu était plus dans notre relation, c'est-à-dire un respect de l'autre, sans attente, une attention à l'autre, sans intention sur lui, dans une désappropriation, la vie du monde changerait. Mais ces mots prennent sens, et non seulement ils prennent sens, mais notre position dans cette spiritualité-là prend sens. Nous avons un sens.
Le Dieu qui est notre libérateur, le Dieu qui nous introduit dans notre propre intimité, le Dieu qui en est le centre et le garant, le Dieu qui nous révèle notre liberté et qui l'accomplit, et peut-être qu'un Dieu est désapproprié de soi, incapable de se posséder et de rien posséder. Enfin, un Dieu qui donne, qui se donne et qui ne peut jamais faire autre chose.
Quelles sont les personnes aujourd'hui qui en vivent, héritiers de Maurice Zindel, et qui retransmettent sa pensée? Qui sont-ils?
Alors, ils sont très variés. Hein. On les trouve beaucoup, on les trouve dans l'écriture. Regardez une Marie de Wenzel. Elle a une façon de vivre sa relation à l'autre dans les soins palliatifs qui est très marquée par Zindel. Simone Paco, grande psychologue, parle avec un livre qui s'appelle, je crois, L'ouverture de l'esprit. Le titre n'est pas forcément exact. C'est la démarche zindelienne. C'est cette démarche, justement, où l'on se vide de soi pour s'emplir et où on le met dans la relation. Et où la relation est vécue comme un pont réel, un pont en lien avec notre intériorité, avec une intériorité qui s'échange. Et c'est vrai que avec toutes ces personnes, on en trouve évidemment chez les médecins, on en trouve chez les psychologues, chez les thérapeutes, beaucoup. Parce qu'on retrouve chez les thérapeutes, quelquefois, cette maïeutique silencieuse qui était propre à Zindel. Par exemple, Zindel était un homme souvent silencieux. Parce que pour lui, toute parole qui n'était pas redite avec le consentement de l'amour était vaine. Donc vous aviez des gens qui venaient le voir, avec des situations problématiques, etc., ou des questions de curiosité, comme quand on rencontre un grand spirituel, on a envie de voir comment il vit, comment ça se passe, et qui viennent avec des questions très pressantes. Et Zindel, avec un sourire, se tait. C'est très désarçonnant. Et puis, alors, il y en a qui insistent, d'autres qui repartent déçus. Certains comprennent, parfois, et le disent. Au bout de quelques jours, la question avec laquelle ils sont venus, elle a trouvé sa réponse, toute seule. Et puis, en fait, quand on se penche sur cette question-là, on s'aperçoit que Zindel, lui, il est resté branché. Il est resté branché en lien avec son intériorité, en lien avec l'intériorité de l'autre. Dans la prière, dans la pensée, il porte l'autre dans sa problématique. Et elle finit par éclore. Elle finit par éclore de l'intériorité de l'autre, de celui qui est venu consulter. C'est toute la dimension de la prière, de fait de porter l'autre, d'être en relation avec l'autre.
Vous évoquiez l'accompagnement. Est-ce qu'il y a aussi d'autres domaines professionnels dont des personnes se sont inspirées de Maurice Zindel pour exercer leur métier?
Je lisais l'article d'un peintre hier. Il parlait comme Zindel. Il disait, pourquoi est-ce que je peins? Eh bien, je peins pour retrouver ce qui me dépasse et pour le faire percevoir et pour que ça devienne une relation. Ben, c'est exactement ça. Zindel avait eu, lui, une vision, enfin une compréhension, une fulguration devant le David de Michel-Ange. Tout d'un coup, il a été mis au contact de la beauté, avec un B majuscule. Et là, il a compris la recherche de l'artiste, il a compris ce que l'artiste essayait de lui faire passer. Et il a communié directement. Ça le renvoie au musicien. Un musicien qui s'écoute jouer vous coupe de la musique avec un grand M. Un musicien qui s'efface devant la musique vous met directement au contact de la musique. La spiritualité, c'est ça. Et lui, toute la vie, il a cherché à s'effacer pour mettre les gens en présence de la présence avec un P majuscule.
Est-ce qu'il y a des lieux aujourd'hui où les personnes qui veulent rentrer en contact avec cette pensée de Maurice Zindel, des lieux qui sont aménagés pour permettre cette rencontre ?
Aménagés, il y a naturellement des paroisses qui sont promues par des prêtres zindéliens, par exemple. Ça, il y en a naturellement. Il y a des lieux de retraite, notamment la Roche d'Or. Il y a des associations, une association Maurice Zindel France, avec un site internet qui met en lien justement tous les groupes zindéliens en France, par exemple. Des groupes qui se montent spontanément, qui sont soit en lien avec l'association, soit des personnes indépendamment qui forment des groupes de prière et qui s'inspirent d'une réflexion approfondie de Maurice Zindel. Et souvent, il y a une amitié, une solidarité très grande dans ces groupes, parce que d'abord, il n'y a aucun jugement. Il y a une possibilité de se confier, d'établir cette relation du cœur et d'établir cette relation dans l'esprit.
À votre connaissance, les personnes qui fréquentent ce genre de milieu, est-ce qu'elles sont forcément croyantes, chrétiennes, ou est-ce que vous avez observé des personnes qui ne sont pas du tout dans ce giron ?
Il y a de tout. Nous avons surtout remarqué qu'à la journée des Amis de Maurice Zindel, qui est une journée annuelle qui se tient le second week-end d'octobre, viennent des individus, pas forcément des groupes, des catholiques convaincus, qui viennent comprendre, qui viennent chercher davantage. On retrouve des athées, on retrouve des athées en interrogation, on retrouve des personnes qui ont un chemin spirituel très différent, très ouvert, et qui viennent aussi confronter, parce qu'elles ont retrouvé chez Zindel cette ouverture et une possibilité de parler avec des termes qu'elles n'employaient plus ou qu'elles n'employeront pas encore. Et c'est très large, c'est un public très large.
J'aimerais, France-Marie Chauvelot, vous poser la question à vous. Comment avez-vous vous-même découvert Maurice Zindel ?
C'était en fait une commande d'éditeur, parce que je travaillais déjà avec un éditeur qui m'a proposé de rencontrer Bernard de Boissière, prêtre jésuite, qui avait très bien connu Maurice Zindel et qui me proposait donc une biographie d'un mystique contemporain dont j'ignorais absolument tout. Et une biographie, moi, ça me passionnait parce que je trouvais que ça répondait assez avec le recul sur toutes les questions qu'on se pose sur l'inné, l'acquis, les choix, la direction dans la vie, etc. Et un mystique d'autant plus parce que je me demandais si, en travaillant la vie d'un mystique, on pourrait comprendre sa relation à Dieu, s'y intéresser et éventuellement rentrer dans ce lien très particulier qui unit le mystique à Dieu. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à travailler cette biographie, j'ai vu d'abord un homme absolument extraordinaire, parce que moi je me suis attaquée à ses documents les plus intimes, si vous voulez, les correspondances, les suivis spirituels, ses confidences. Et dans ce lien très intime, qu'il a dévoilé parfois au sein de cloître, hein, dans la clôture, avec des sœurs avec lesquelles il pouvait parler librement, et j'ai vu une personne se dessiner assez extraordinaire, parce qu'on avait l'impression d'avoir une âme sans peau. C'est-à-dire une âme abordable, en même temps une immense puissance intellectuelle, une curiosité de tout, les mots pour le dire, et une humilité qui le laissait approcher de très très près. Zindel supporte l'intimité, c'est rare, parce que c'est un mystique qui n'a pas été clôturé finalement, il a été projeté dans le monde. Mais il a cette transparence mystique qui permet qu'on l'approche. Et je pense que ceux qui l'ont connu ont été extrêmement touchés par cette approche, parce que, par exemple, l'abbé Pierre, lui, allait se confesser à l'abbé Zindel. Hein. Ils étaient très proches. Et l'abbé Pierre disait, avec lui, on est à mi-chemin entre Dieu et l'homme. Et c'est vrai que dans cette façon de se laisser transparent au Christ, j'ai été extrêmement touchée, parce que à certains moments, quand il parle du Christ, on a l'impression qu'il l'a connu et qu'ils se sont parlé. Et on a l'impression que le Christ nous parle à travers lui, tellement il s'est rendu justement transparent à la présence, ce qui était tout le but de sa vie. Hein. Et petit à petit, j'ai vu aussi se développer une pensée magistrale, intelligente, puissante, qui nous touchait, qui était susceptible d'être une vraie voix dans l'Église, un vrai enseignement, non pas par sa nouveauté sur le fond, mais dans le fait que tout ceci coexiste chez un homme qui le vit au quotidien et qui est capable de l'expliquer, qui est capable de nous le faire vivre.
C'était aussi pour vous une démarche de foi ou comment ça s'est passé pour vous?
Ça l'a conforté, ça m'a donné surtout de la vie aux mots, à des mots que j'avais entendus, surentendus, et qui tout d'un coup sont effectivement devenus vivants. Mais la phrase, quand on l'entend, beaucoup de personnes disent cela, et ça semble pas dire grand-chose, mais il faut être, c'est l'expérience. Ça passe par une expérience. Et ben, je commence à l'expérimenter.
Si je pourrais terminer, quel est le mot, par exemple, qui définirait ce personnage ou sa pensée, ou dans ce qui vous a marqué?
Le définir, ce serait difficile. Mais à votre question, je dirais plutôt une phrase qui m'a beaucoup touchée et qui est un axe. C'est « Rien n'est interdit, tout est sacré ».
Et vous comprenez ça comment?
Je comprends cela comme un ajustement personnel. C'est-à-dire que rien n'est interdit, tout est sacré. C'est à chacun de trouver la dimension du sacré et de se rapporter au diapason du sacré. Est-ce que ce que je vis dans ma relation est sacré? Est-ce que je vis l'autre comme sacré? Est-ce que je me vis comme sacré? Rien n'est interdit, c'est-à-dire que Jésus n'est pas moral, Jésus est mystique. Ça s'adresse tout à fait au Dieu intérieur, qui est un diapason intérieur. L'écho de Dieu, résonance, hein? Dieu n'est pas qu'intérieur, mais c'est en nous avons en nous cet écho et cette résonance qui nous permet à nous-mêmes de nous ajuster quand nous nous donnons les moyens de nous ajuster en nourrissant notre intériorité.
C'était France-Marie Chauvelot à propos de la pensée du théologien et prêtre Maurice Zindel qui est décédé il y a 40 ans et dont nous parlons toute cette semaine avec vous, Grégory Roth. Nous parlons en particulier des héritiers de Maurice Zindel. France-Marie Chauvelot est, on peut le rappeler, co-auteur d'une biographie importante sur Maurice Zindel.
Oui, co-auteur parce qu'elle l'a écrite avec le jésuite Bernard de Boissière. Une biographie qui est parue d'ailleurs aux presses de la Renaissance en 2004, qui a été rééditée en 2009. France-Marie Chauvelot est aussi active dans les cercles d'associations de Maurice Zindel, des associations dont chaque pays a son site internet. On y retrouve d'ailleurs dans certains d'entre eux les listes des rencontres, des conférences et des événements qui sont liés à Maurice Zindel. Et on retrouve même la pensée du jour de Maurice Zindel.
Alors des liens d'ailleurs que nous mettons à disposition sur la page de notre émission rts.ch/esprit que vous pouvez retrouver et consulter donc à tout temps. Demain, Grégory Roth, on va continuer en rencontrant une autre personne qui se réclame ou qui s'insère d'une certaine manière dans l'héritage de la pensée de Maurice Zindel.
Oui, il s'agit de Christopher Wasserman. C'est un chef d'entreprise et qui a pu, grâce à Maurice Zindel, refaire une relecture complète de sa vie et des options déterminantes qu'il a prises, tant sur le plan privé que professionnel. Il a notamment aussi réfléchi sur une économie au service de l'humain.
Ce sera donc pour demain à 16h30. On vous retrouvera avec intérêt, Grégory Roth. Merci beaucoup.
Merci.
Et d'ici là, on peut consulter, donc comme je le disais, la page internet de notre émission rts.ch/esprit pour les liens complémentaires et la possibilité de réécouter cette émission rts.ch/esprit. Et juste avant de nous quitter, des remerciements encore à Jean-Claude Gailly pour la réalisation de cette émission. C'est ainsi que se termine cette édition d'Avis d'Esprit. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous à 16h30 demain pour un deuxième volet de cette série d'émissions sur les héritiers de Maurice Zindel, proposé par Grégory Roth. Et d'ici là, si vous souhaitez en savoir plus, notre page internet rts.ch/esprit. Dans quelques minutes, c'est Daniel Rebella que vous retrouvez d'un air entendu. Très belle suite de journée sur Espace 2. Il est 17h.